Bien, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Djoliba TV News et dans votre émission Le QG de l'actu, Le QG de l'actu, qui revient aujourd'hui sur trois thématiques, à savoir la visite du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maiga, qui était en visite officielle au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, mais aussi au nom de la Confédération des États de l'AES. Il a pris part justement au Japon, à Osaka pour être précis, ici à l'Expo Universel Osaka 2025 à travers la Journée Nationale du Mali. Nous allons justement revenir sur cette actualité, mais après nous avons vu que le président a également effectué une visite au Turkménistan, précisément à Awaza, et où il a justement pris part à la troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Nous allons revenir sur cette actualité du Premier ministre avec nos différents invités. Deuxième sujet de ce débat, nous allons nous intéresser également à cette promulgation, cette loi qui a été étendue, la loi justement qui a été adoptée le 12 juin dernier à l'unanimité par les membres du CNT, laquelle loi a été déclarée conforme par la Cour constitutionnelle le 30 juin dernier. C'est finalement la promulgation de la loi visant justement à accorder aux membres du CNT des indemnités et autres avantages. Troisième sujet de ce débat, nous allons revenir sur ce nouveau mode des terroristes qui constitue justement à s'attaquer à nos infrastructures, à certaines usines, et quel impact sur notre économie. Et pour parler de ces sujets, nous recevons sur notre plateau Chokoumar Soumano. Il est le président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Il est également le coordinateur du baromètre. Monsieur Soumano, bonsoir.
Bonsoir Oumar, merci de l'invitation.
C'est un plaisir, M. Soumano. Deuxième invité de ce débat, Abdallah Yattara. Il est expert consultant formateur. Bienvenue, M. Abdallah Yattara.
Merci. Merci pour l'invitation. Salut à mes co-débatteurs et bonne émission.
Merci à vous. Troisième invité de ce débat, Badou Sidi Kouba. Il est le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali, mais aussi le fondateur. Pour être plus précis, vous êtes journaliste de votre état. Monsieur Badou, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
C'est moi qui vous remercie. Et au passage, je remercie les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment sur Djoliba TV News, la chaîne qui est ouverte à tout le monde. Et au passage, je salue mes deux co-débatteurs qui ont eu quand même le courage de venir autour de ce plateau, puisque l'autre est en retard.
Ils ne sont pas que deux, ils seront trois tout à l'heure. Okay. Et nous attendons incessamment l'arrivée du docteur Amadou Touré, qui va justement prendre part aux discussions que nous allons avoir tout à l'heure. Je rappelle que docteur Amadou Touré est analyste politique et sécuritaire au Mali. Justement, Badou Sidi Kouba, nous avons vu le Premier ministre qui a fait son retour, c'était le vendredi dernier. Son avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Bamako-Moribo, qui est assez long. Et justement, il avait pris part au Japon, comme on l'avait dit, à l'Expo Universelle Osaka 2025, au cours de laquelle il y avait quand même une journée dédiée à la Journée Nationale du Mali. Mais aussi, il a fait une visite au Turkménistan, à Waza, pour être plus précis, où il a pris part à la troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Alors, que peut-on retenir de cette visite du Premier ministre, le Premier ministre Abdoulaye Maiga?
Oui, par rapport à cette visite du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maiga, on peut, sans risque de se contredire, dire que la visite a porté fruit, puisqu'il s'agissait de présenter le Mali, de présenter le génie malien et de présenter les potentialités économiques et culturelles du Mali. Et c'est pour cette raison qu'il est parti avec une forte délégation qui était composée d'opérateurs économiques, d'hommes de culture. Et la visite a été un plein succès parce que ce que nous avons vu à la télé prouve que le Japon s'intéresse beaucoup au Mali. Et entre le Japon et le Mali, il y a des traits communs. Il y a des traits communs. Et le Premier ministre l'a dit lors de son discours. Donc cela prouve à suffisance que les relations entre Tokyo et Bamako sont au beau fixe. Et les relations ne datent pas de cette expo. Nous savons tous que le Mali participe activement à la TICAD. Ça, c'est la coopération internationale de Tokyo pour le développement durable. La TICAD, donc le Mali participe activement à la TICAD. Donc cette expo était une occasion pour démontrer encore une fois que le Mali est un grand pays le Mali a d'immenses ressources qui peuvent intéresser le Japon. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Japon est la troisième économie du monde. Donc l'Empire du Soleil Levant a forcément besoin des ressources. Parce que le Japon, malgré cette puissance industrielle, est dépourvu des ressources. Donc pour son approvisionnement par rapport à certaines ressources minières et énergétiques, le Japon est obligé de se tourner vers l'extérieur. Et donc le Mali est une opportunité unique pour le Japon en la matière. Parce que vous savez que le Mali produit de l'or, le Mali produit beaucoup d'autres ressources en rapport avec la nature. Le Mali produit du coton qui peut intéresser les industries textiles et japonaises. Donc entre le Mali et le Japon, il peut vraiment avoir une certaine connexion en matière économique. Par rapport à la visite du Premier ministre au Turkménistan, je pense que c'était nécessaire parce qu'il s'agissait d'une rencontre unissant tous les pays du monde qui n'ont pas de littoral. Or, le Mali fait partie de ces pays-là. Or, les pays qui n'ont pas de débouchés maritimes souffrent énormément. Donc, c'est pour cette raison que les Nations Unies ont organisé cette conférence pour que les pays qui souffrent du manque de littoral puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages avec les pays qui disposent de débouchés maritimes. Donc, on peut dire que le Premier ministre a fait le tour du monde, mais ce tour du monde n'a pas été inutile. Ce tour du monde a été d'une très grande utilité pour le Mali. Donc, son départ pour le Japon a été utile, son départ au Turkménistan a été utile. Okay. Donc, on peut dire que la visite du Premier ministre dans ces deux pays n'a pas été une visite.
Globalement, donc, le bilan il est satisfaisant.
On peut même se réjouir de cette visite
dans ces deux parties du
Nord. Pour une fois, le bilan est satisfaisant.
Très bien. Alors, il n'était pas à Turkménistan, mais il était justement du côté du Japon. Il a pris part, on avait vu sur certaines images aussi, que M. Sumano était au Japon. Dans le cadre de l'Expo universelle Osaka 2025, il y avait même une journée nationale du Mali. Alors, justement, M. Sumano, que peut-on retenir justement de cette journée nationale dédiée au Mali, en dehors de nos frontières?
Merci bien, Omar. Effectivement, j'ai eu la chance de participer à l'étape de la visite du Premier ministre au Japon, où j'ai été à la tête d'une délégation des jeunes patrons. Donc, je profite pour saluer ceux qui ont fait le déplacement avec moi. Je dois dire qu'il faut féliciter le Premier ministre parce qu'il a vraiment porté la voix du Mali avec ses ministres, notamment le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière, qui ont fait de telle sorte que la diplomatie économique et la diplomatie culturelle malienne puissent briller au Japon. Et je pense que le message a été bien perçu, parce que le Premier ministre a profité de sa tribune pour parler de la désinformation dont fait l'objet le Mali. Et ça, je pense que ce message est important. Maintenant, par rapport à l'étape du Japon, il est important de noter qu'on peut la résumer en trois temps. Le premier temps, c'est déjà le Business Forum, parce que là, je pense qu'il faudrait revenir sur ça. Le Business Forum où le Premier ministre était là, avec le ministre, était déjà co-organisé par l'Agence pour la promotion des exportations et celle de l'aider à l'importation, aux investissements à l'API. Donc, il faut saluer déjà les deux directeurs qui ont vraiment mis le maillot. Donc, c'était vraiment mettre en phase les opérateurs économiques maliens et les opérateurs économiques japonais. Parce qu'il fallait déjà vendre la destination Mali et je pense que ça a été bien fait. Okay. Il y a eu des B2B dans le domaine, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est élevage, tout ce qui est commerce et tout ce qui est secteur énergétique, etc. Je pense que déjà, ça a été bien perçu. Maintenant, la deuxième étape, le deuxième temps peut être dédié à la journée du Mali. Et là, il faut noter que l'expo se tient déjà sur 9 mois, parce que ça a commencé depuis le mois de novembre. Mais ce mois d'août, il y a chaque pays qui a sa journée. Donc le 2, c'était la journée du Mali. Donc le premier, vendredi, c'était le Business Forum. Le 2, ça c'était la journée du Mali. Et c'est là où le Premier ministre a pris la parole, maintenant pour porter haut la voix du Mali, pour vendre la destination Mali et surtout profiter pour faire cas de la campagne de désinformation et surtout à appeler à une prudence. Parce que disons qu'il y a des informations qui sont accessibles pour des médias ouverts, mais qui ne sont souvent pas. Et il y a exhorté justement les investisseurs japonais à pouvoir faire attention à cela. Et le troisième temps, ça c'est d'ailleurs une tradition. C'était la rencontre avec les Maliens établis au Japon. Donc, selon les statistiques données par l'ambassadeur du Mali au Japon, le général de Yedapo, il y a 250 Maliens qui sont au Japon. Ils sont des étudiants et il y a certains qui travaillent dans les manufactures. Alors, mais ce qu'il faut noter, c'est que vraiment, moi, ce qui m'a impressionné, c'est vrai que nous, en tant que jeunes patrons, on était au nombre de 7, mais je voudrais vraiment tirer chapeau aux autres opérateurs économiques de la Chambre de commerce. Il y avait vraiment une mobilisation. Ça veut dire que les gens ont l'amour du pays. ça veut dire que chacun souhaiterait que notre économie, notre secteur privé puisse aller de l'avant.
Très bien.
Et il y a beaucoup de traditions, beaucoup d'éléments qui lient le Mali et le Japon. Et je finirai par aussi dire que les artistes invités ont réellement porté le Mali.
D'accord.
Il s'agit de Habib Keïta, de Baba Sala, qui ont fait danser et des Maliens, mais également ont fait danser les gens.
Très bien, il y en avait assez, hein, les artistes invités, Delphine Moukouro, Cheikh Tidiane Cheikh, et j'en oublie volontiers d'autres. Alors, M. Abdallah Yattara, fidèle à lui-même, toujours son bout de papier entre les mains. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir, M. Abdallah Yattara, de cette visite du Premier ministre et au Japon et au Turkménistan?
Merci bien, M. Traoré. Quoique l'ambassadeur du Mali au Japon, c'est le général Élysée, je crois.
Didier,
c'est où? Je pense que c'est en Chine. Hein.
Non,
D'accord, je m'excuse. Je crois que c'est Élysée, d'accord. Ok, donc effectivement, le Mali s'ouvre au monde. Après la 4e conférence pour l'investissement en Espagne, le Premier ministre encore a pris son chapelet de voyageurs pour se rendre au Japon et en Turkménistan. Et au Japon, il s'agissait de participer à l'exposition universelle Osaka 2025, et qui avait comme point de mire, je crois, le forum business Mali-Japon, et au cours duquel il s'agissait vraiment de vendre la destination du Mali en montrant effectivement le code des investissements, le code minier, et qui sont vraiment attrayants aujourd'hui. Et aujourd'hui, de montrer au Mali, au monde entier, que le Mali n'est pas du tout un Noumasland. Et à ce titre, des panels ont été animés et par le ministre de l'Industrie et par le ministre de la Culture. Et sur les thèmes suivants, l'agriculture, l'industrie, les mines, l'électricité et l'énergie renouvelable. Je crois que c'est là où je me pose des questions par rapport à l'énergie et par rapport à l'énergie renouvelable et l'électricité. Qu'est-ce qu'on a à offrir au regard de la crise énergétique que nous traversons depuis bientôt 4 ans, 5 ans et qu'on n'arrive pas du tout à résoudre? Il y a aussi, comme il a dit Soumanou, des B2B. Je crois qu'au cours desquels sûrement des contrats ont été ficelés pour le bonheur de l'économie malienne. Mais je n'ai pas du tout vu si, il pourra peut-être m'élucider, s'il y a un thème social sur l'artisanat et la culture. Parce qu'en réalité, comme la diaspora, l'artisanat et la culture apportent plus que l'aide au développement. Mais c'est vrai, avec la crise multidimensionnelle que nous traversons, l'artisanat et le tourisme traversent aujourd'hui des difficultés. Mais quand même, c'était bon de pouvoir relancer cette activité-là pour pouvoir vraiment rassurer les étrangers. Effectivement, en marge de ce forum-là, il a eu à visiter, comme l'a dit Soumanou, le siège de Panasonic et aussi a rencontré aussi les ressortissants maliens qui sont là-bas. Et la nuit aussi des artistes, oui, c'est cette image d'artiste que nous voulons. Et non pas cette image qui nous amène au pôle de la cybercriminalité. Ils ont vendu l'image de l'artiste malien et c'est cette image que nous voulons aujourd'hui pour nos artistes. Et vous vendre aussi l'image de la culture malienne.
Okay.
Et la deuxième étape, effectivement, c'est l'étape du Turkménistan. Mm-hmm. Et au cours de la... Ils devraient participer à la... troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Et pendant cela, c'est ce jour, je crois qu'il a fortement défendu à la fois la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aussi la Convention de 1975 relative au commerce de transit et des États sans littoral. D'accord. Il a prêché vraiment la cause des trois pays de l'AIS, okay. Mais pour qu'on puisse avoir des débouchés sur la mer, mais en réalité, en quittant la CEDEAO, en abandonnant ces pays qui devaient servir de transit pour nos marchandises, et nous ne sommes pas nous-mêmes mis dans des problèmes. Donc, il va falloir réfléchir aussi par rapport à ça.
Il va falloir réfléchir. Alors, il a fait son entrée, docteur Amadou Touré, il a été pris dans les bouchons de Bamako, ça se comprend aussi. Alors, bienvenue à vous, monsieur Touré. Alors, justement, vous prenez le train en marche, on parlait tantôt de la visite du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maiga, au Turkménistan, mais aussi au Japon. Alors, sur ce plateau, c'est quand même un sentiment qui est partagé, que c'est une visite qui est à saluer parce que ça prouve à suffisance que alors, le Mali n'est pas un pays isolé.
Donc pour le premier point, j'avais dit qu'en termes d'opportunité, nous avons le Grand Nord en termes d'énergie renouvelable. Nous avons élaboré le document qui parle du potentiel énergétique de Tombouctou en termes d'énergie solaire. Mais compte tenu de ce qui se passe, nous avons des possibilités au moment où il y aura plus de... Nous allons bénéficier de situations stables, le Mali peut offrir. Mais au-delà, n'oubliez pas que le code minier a changé, nous avons beaucoup de potentialités. Mais mon analyse va s'attendre sur le deuxième point qui m'intéresse beaucoup, parce que le Premier ministre a profité pour lancer une grande déclaration pour dire que le contexte littoral pose problème au pays de l'AS. Donc en termes de
de droit maritime, du commerce transitaire international, il y a ce qu'on appelle une asphyxie de l'AS qui se joue qui serait en train de jouer. Donc il laisse un appel pour les uns et les autres et que l'ONU puisse servir de voix pour rappeler les uns, malgré la crise, malgré les tensions, le Mali droit à un accès au port maritime des uns et des autres.
Okay. D'accord, c'est bien noté, c'est des préoccupations aussi. Alors justement, M. Soumano, je pense que vous avez suffisamment d'informations concernant cette visite. Alors effectivement, on a vu que le Premier ministre a justement, comme d'habitude, été reçu par les Maliens qui sont au Japon. Vous les avez estimés, selon en tout cas les chiffres donnés par l'ambassadeur, son Excellence Didier Dakou, qui est du côté du Japon, qui s'élève à 250 Maliens qui vivent aujourd'hui sur le pays du soleil, du pays
levant.
Alors, grosso modo, en gros, est-ce que réellement, on peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs?
Mais bien entendu, parce que, vous savez, la communication qui a été faite autour du Mali a déjà porté fruit. Parce que vous savez, quand moi j'étais dans l'avion pour aller au Japon, c'est quand même 13 heures de vol, souvent même 15 heures. Ça
15 heures, 13 heures de vol entre Paris et Japon.
Oui, mais d'autres qui font 15 heures pour ceux qui passent par là. Mais okay. Quand vous parlez, quand on vous voit, on vous dit vous venez au Japon, vous venez d'où? En général, les Japonais, pour la plupart, ne connaissent pas trop l'Afrique de l'Ouest. Et donc, quand ils parlent du Mali, tout de suite, ils essaient de comprendre parce qu'ils ont la connexion dans l'avion. Ils essaient de voir, dire le Mali. Et tout de suite, c'est le nom du président qui vient. Ah, c'est Miguita, par exemple, Tombouctou, etc. Et donc, cette communication qui a été faite, les gens, d'abord, le fait que nous sommes allés parler de la destination Mali, leur dire de venir investir, les Japonais ont dit, mais finalement, ce que certains médias internationaux disent concernant la situation économique du Mali, ça veut dire que, en fait, ce n'est pas la réalité. Et c'est justement ce message de désinformation que le Premier ministre s'est attelé, parce qu'il a carrément laissé son discours pour insister sur cet aspect-là. Ça, c'est important. Deuxièmement, les artistes ont été d'un grand apport. Comme il a dit, j'ai cité deux, mais il y avait d'autres. Notamment les Wassa, etc., qui ont presté, il y a eu, les Japonais ont dansé au rythme de Mali. Ça aussi, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, il a parlé des artisans. Mais je rappelle que depuis le mois de novembre, il y a un stand Mali où il y a vraiment des objets artistiques et culturels. Les masques les masques d'Ogon, etc., les tenues traditionnelles. Mais aujourd'hui, qui se sont vendus comme des petits pierres. Il y a des Maliens qui sont allés, qui tiennent nos stands, ça a permis de faire connaître le Mali. Maintenant, ce que j'ai aimé, parce que quand on a placé la visite des stands dédiés au Premier ministre, il y avait juste un temps, mais il n'a jamais voulu partir sans aller visiter les deux autres pays de l'AES, notamment le Niger et le Burkina. Donc, ça veut dire qu'il a toujours à l'esprit que quand le Mali va, là où le Mali s'exprime, là également va s'exprimer le Niger et le Burkina. Maintenant, ce que moi je retiens de cette visite-là, c'est communiquer sur le plan économique, communiquer culturellement, c'est ce qui permet justement de rassurer les investisseurs. Et je retiens la métaphore donnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui dit aux Japonais, il est temps pour vous de venir investir tout de suite, sinon vous n'aurez pas de place. Et ça c'est franchement, et quand il a dit ça, toute la salle s'est mise à rire et ça veut dire que c'est un message qui a été capté. Le Premier ministre aussi a dit qu'il faudrait que vous veniez avant qu'il ne soit trop tard. Donc je finirai avec votre permission vraiment de saluer le travail remarquable qu'ont abattu les deux agences, l'agence pour la promotion des investissements et l'agence pour la promotion des exportations, dont le dirigé est d'ailleurs le commissaire général au niveau de l'exportation.
Ok, oui, Badoussi,
oui, quelques passages par rapport à la coopération entre le Mali et le Japon.
Okay.
Je me rappelle bien, quand nous on était jeunes, on entendait parler de la JICA. Donc la JICA, c'est une branche du Japon qui a beaucoup investi au Mali. Et je me rappelle bien, à l'époque, les Uno, là, il y avait des marques de camions qu'on a données au cercle. Uno, quand le véhicule prend du recul, ça fait tit-tit, c'est les Japonais qui ont fourni ça au Mali en grand nombre. Donc tous les cercles avaient ça. Maintenant, pour terminer très rapidement, le Premier ministre, dans son discours, a parlé de l'ère Meiji. Il a parlé du rapprochement entre le Mali et le Japon. Mais il y a un passage qui m'a beaucoup impressionné. Quand il a parlé des impérialistes, etc., etc. Le Japon, quand même, a été une puissance impérialiste. Et nous savons tous que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a gratuitement attaqué les États-Unis au niveau de Pearl Harbor, ce qui a poussé les Américains à entrer dans le conflit. Les Japonais ont occupé la Corée, la Manchurie, le Manchukuo, et l'île de Formose qu'on appelle Taïwan aujourd'hui. Et chaque année, quand le Premier ministre japonais se rend au sanctuaire de Yasukuni, il y a un sanctuaire qu'on appelle Yasukuni.
Okay.
Les dirigeants japonais se rendent là-bas. Quand les dirigeants japonais se rendent là-bas, les Chinois et les Coréens protestent parce que les Japonais disent que c'est des héros qui dorment là-bas. Or, pour les Chinois et les Coréens, c'est des criminels de guerre qui dorment là-bas.
D'accord.
Et pour terminer, il a parlé de l'ère Meiji. En fait, par rapport à l'ère Meiji, c'est le Commodore Perry. c'est le Commodore Pui qui est un amiral américain qui a mouillé dans le baie de Tokyo avec un impressionnant arsenal de vaisseaux et qui a forcé les Japonais à s'ouvrir sur le monde. C'est les Américains qui ont forcé les Japonais à s'ouvrir sur le monde à travers le Commodore Pui qui a mouillé dans la baie de Tokyo à la tête d'un certain nombre de vaisseaux. Donc il était important de la rappeler. Pour le cas du Turkménistan, rappelons que le Turkménistan, comme c'est un pays turcique d'Asie centrale, effectivement, qui n'a pas de débouché maritime. Donc c'était une occasion unique pour notre Premier ministre vraiment de lancer un cri de guerre, un cri de détresse. Parce qu'entre nous et les autres pays de la CEDEAO, ce n'est pas le parfait amour. C'est le lieu de saluer le Maroc. Parce que seul le Maroc a tendu la main au pays de l'AS pour leur dire que la façade atlantique qui borde le Maroc est à leur disposition.
Très bien. Oui, monsieur Abdallah Yattara, rapidement, comme je disais tantôt, c'est une visite saluée par bon nombre de Maliens et c'est là pour la suffisance que ce qu'on dit de l'autre côté concernant le Mali qui est un État isolé, ça n'en est pas un. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de cette visite? Est-ce que c'est une initiative qu'il faut pérenniser ou votre avis?
Bon, on doit continuer à s'ouvrir au monde. Excusez-moi, forcément, on doit continuer à s'ouvrir au monde. Vous savez, on a beau appeler les investisseurs, on a beau brandir le code minier, on a beau brandir le code des investissements, je crois que tout dépend du climat des affaires. Comprenez? Et là, par rapport à ça, il y a la bonne gouvernance et aussi la sécurité qui est là. Donc, il va falloir qu'on mette nous-mêmes aussi l'accent et sur la bonne gouvernance et aussi la lutte contre l'insécurité. Et je crois qu'avec ces deux facteurs, on pourra attirer les investisseurs. Sinon, on a beau brandir le code minier, on a beau brandir le code des investissements, on a beau vendre la destination Mali, forcément, il faut assainir le climat des affaires pour que les investisseurs puissent venir. Et là, la bonne gouvernance et aussi la lutte contre l'insécurité doivent prévaler par nos sécurités.
Très bien. Docteur Touré, est-ce que cette visite du Premier ministre a permis au Mali d'être écouté à travers, en tout cas, surtout cette tribune qu'il a faite? On se rappelle lors de sa visite au Turkménistan, il a parlé au nom du chef de l'État, il a parlé aussi au nom de la Confédération, l'État de l'AS. Est-ce que sa voix a été entendue selon vous?
Oui, la voix a été entendue parce qu'en réaction, beaucoup ont mis des analyses contradictoires. Parce que le fait de quitter la CEDEAO nous empêche. Est-ce que ça doit nous empêcher d'accéder à la mer? Parce que nous avons vu le président ghanéen, il était là au Mali. Il a donné l'opportunité au Mali de se raviter à travers les ports du Ghana. Donc ce qui est important pour moi, c'est de comprendre que le système international fonctionne à travers les conventions internationales. Donc le Premier ministre a profité de l'occasion pour rappeler les uns et les autres, malgré qu'il y a crise, les tensions, souvent, il y a un droit. Donc le droit doit être respecté du point de vue de ce. Maintenant, ce qui peut se poser, là où je donne mon avis très personnel, c'est que nous aurons dû aussi profiter de cette crise aussi pour faire des relations bilatérales. La coopération bilatérale pourrait jouer en termes de ravitaillement, en termes d'accès au port maritime.
Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Quand on a vu même le président de la transition, quand il a fait cette visite en Russie, il a quand même visité un pays aussi, un État russe. Il a également cette visite aussi du Premier ministre des pays comme le Turkménistan qui ne sont pas assez connus. Alors, est-ce que ça ne signifie pas qu'aujourd'hui on est en train vraiment d'élargir un peu notre champ?
Oui, l'élargissement, comme on l'avait dit au départ, le Mali n'avait pas déjà, parce que le fait de se fermer, le Mali n'a pas le droit de s'isoler, parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'il faudrait tout importer, il faudrait aussi s'assurer que les relations de bon voisinage nous permettent d'accéder à ce que nous n'en disposons pas. Et pour exemple, comme le Premier ministre l'a dit, c'est un droit, et aussi du point de vue international, le Mali ne peut pas rester fermé sur l'AS. Donc l'AS aussi a des potentialités, et l'AS du point de vue a besoin des autres partenaires pour combler le vide. Quand je parle de vide, le vide portière, le vide sécuritaire, le vide politique. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons en tirer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait travailler sur notre diplomatie en termes que nous sauvegardons nos intérêts. Et on dit qu'il n'y a pas d'amitié, il faut toujours sauvegarder les intérêts. Et c'est pour ça. Finir, c'est un bon pas, c'est une très bonne avancée en termes de relations pour dire que désormais le Mali s'ouvre, mais les conditions restent les mêmes. Et sans ingérence, et on fonctionne des principes édictés dans la Constitution.
Très bien, merci à vous, M. Touré, Dr. Touré. Alors, si nous conduisons, monsieur, sans forme de transition, au second sujet de ce débat, je le disais dans les propos liminaires, nous allons nous intéresser à cette loi qui avait été adoptée par le Conseil national de transition, c'était le 12 juin dernier, laquelle a été déclarée conforme selon la Cour constitutionnelle le 30 juin dernier également. Et finalement, comme il fallait s'y attendre, le président de la transition a promulgué la loi fixant indemnités et avantages alloués aux membres du CNT. Pour mieux comprendre ce sujet, je vous propose de suivre cet élément réalisé par Tiana Tangara.
Le président de la transition, Assimi Goïta, a promulgué la loi organique du 31 juillet 2025 fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de la transition. Adoptée le 12 juin dernier à l'unanimité par le CNT et déclarée conforme à la Constitution le 30 juin par la Cour constitutionnelle, cette loi accorde plusieurs indemnités aux membres du CNT. En vertu de l'article 4, ils perçoivent une indemnité mensuelle de représentation, de cession, de logement, une indemnité spéciale mensuelle de membres du CNT et enfin une dotation mensuelle de carburant. Toutefois, l'article 10 de la loi précise que les indemnités et autres avantages perçus par les membres depuis la mise en place du Conseil national de la transition leur demeurent acquis. Pour rappel, les indemnités de monture, de chauffeur par membre et de restitution par cession ordinaire ont été supprimés du projet de la présente loi par le Conseil national de la transition. Ces suppressions visent à réduire les dépenses publiques telles que suggérées en avril dernier par des voix critiques au sein de la classe politique.
Très bien. Donc, les membres du CNT ont finalement mis dans leurs droits, selon en tout cas cette loi qui a été promulguée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Monsieur Soumano, finalement, c'est une loi qui, à un moment donné, avait été, on va dire, décriée par bon nombre de Maliens qui ne comprenaient pas du tout, quand ces conditions difficiles, qu'on puisse accorder de tels avantages aux nos membres du CNT. Quelle lecture faites-vous de cette situation?
Bon, déjà, je pense que ce qui est important, on vient de voir l'épilogue de ce processus-là, qui me paraît important, et saluer aussi tous les protagonistes de la chaîne, à commencer par la Cour constitutionnelle qui a fait un travail remarquable que je salue là, mais aussi dire aux Maliens que, en fait, tout travail mérite une rémunération. Nous avons vu, par exemple, qu'il y a certaines indemnités qui ont été enlevées, qui ont été supprimées. Ça, il faut aussi noter que ça s'est fait par esprit de patriotisme et de participation à l'effort de guerre. Donc ça, c'est déjà bien. Et peut-être certains auraient voulu que les uns et les autres renoncent carrément à la totalité des indemnités. Bon, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, j'estime que tout travail mérite une rémunération. Et déjà, si l'instance suprême qui est habilité véritablement à opiner et à donner un avis sur une question l'a fait dans le bon sens, dans le sens positif, moi je pense que là, il n'y a aucun souci. Maintenant, ce qui est intéressant pour moi aussi, il faut que les gens sachent que ces indemnités qui sont versées justement aux membres du CNT sont aussi imposées. Donc, chaque personne, chaque membre du CNT paiera des impôts là-dessus. Donc, ça fait aussi une ristourne pour l'État. On oublie cet aspect-là. Donc, les gens ne voient que ce qui est versé, mais ce n'est pas des indemnités qui sont exonérées d'impôts. Au contraire, ils payent les impôts au même titre que vous et moi. Donc, si par exemple, il y avait eu cet aspect qui avait existé, moi j'allais créer scandale. Mais il n'y a pas eu ça. Donc ça veut dire aussi, ils ont accepté aussi de se soumettre au principe. D'ailleurs, c'est le même cas pour le président Assimi. Assimi paye aussi les impôts sur ce qu'il perçoit. Donc il faut que les gens voient ce côté-là. Et encore une fois, vivement qu'on soit sorti de ce imbroglio parce qu'il y avait vraiment beaucoup de désinformations. Et je pense que la Cour constitutionnelle a déjà dit le dernier mot parce qu'il n'y a pas, après ce que la Cour constitutionnelle dit, pour cela, le président a promulgué.
Très bien. Oui, M. Abdoulaye Yattara, est-ce que vous avez la même lecture des choses que M. Soumano?
Non, pas du tout. Vous savez, on a l'épilogue, effectivement, on a supprimé trois indemnités, indemnité de restitution, c'est normal, indemnité de monture, indemnité pour les chauffeurs, mais on a dû aussi supprimer l'indemnité mensuelle de représentation, c'est pas des élus, ils sont nommés par décret, donc c'est pas, ils représentent qui, donc on aurait dû supprimer aussi l'indemnité mensuelle de représentation. Vous savez, moi, j'ai quand même deux lectures. Et la première lecture, c'est quoi? On dit on a fait circuler le narratif depuis 30 ans, la démocratie nous a mis dans des problèmes. Depuis 30 ans, tous les problèmes du Mali, c'est la démocratie, c'est les partis politiques. Mais les avantages financiers de la démocratie, on les garde. On les garde. Mais le autre problème, c'est la démocratie. La deuxième lecture, c'est quoi? C'est qu'on a rétroactivé une loi organique. Vous comprenez? D'autres sont en prison pour une loi ordinaire. Effectivement, on aurait dû prendre une loi organique pour pouvoir couvrir ces indemnités-là, pour payer ces indemnités-là. Mais ils ont perçu ces indemnités-là sur la base d'une loi ordinaire. Maintenant, ils courent plus en prison, mais on prend une loi organique, on la rétroactive pour couvrir des forfaitures qui ont été commises depuis 2020. Vous comprenez? Alors que d'autres coupent plus en prison pour les mêmes faits. Je crois qu'on aurait dû pour les mêmes rallonger la rétroactivité jusqu'à ceux qui sont en prison pour pouvoir les libérer. Parce qu'en réalité, tout le monde sait qu'ils n'ont pas bouffé cet argent-là. Ce montant-là a été les 17 milliards qui ont été distribués aux députés à l'époque. Ce n'est pas le directeur financier Babier, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale Isaac Sidibé qui a empoché ces fonds-là. Tout le monde le sait. Donc, pour une question de justice sociale, on aurait dû rétroactivité jusqu'à cette loi ordinaire-là pour pouvoir les libérer. Ça, c'est ma deuxième lecture. C'est ce qui me... Deuxièmement, troisièmement, c'est qu'on a, dans le journal, on n'a plus le journal officiel, mais les annexes, pour nous dire effectivement le montant, les annexes, on ne les a pas publiés. Okay. Vous comprenez? Donc, on ne connaît pas le montant. On est, pour une question de transparence, on a dû publier les annexes pour qu'on sache réellement les montants de ces différentes indemnités. Vous comprenez ce sujet? Vous savez, l'humain traverse une crise sans précédent. Je crois qu'on doit avoir pitié de nos finances publiques aujourd'hui. Quoi qu'on aurait dû faire comme le Burkina. On prend tous les pays de l'Est sont sur la même longueur d'onde. Au Niger, peut-être au Burkina, c'est un montant forfaitaire qui sont donnés aux membres du CNT. Ils viennent pour une session, après la session, ils retournent à leur boulot. Vous comprenez? Je crois qu'on aurait dû quand même prendre l'exemple sur le Burkina pour pouvoir alléger nos finances publiques aujourd'hui qui souffrent aujourd'hui. Vous comprenez? Donc moi, je ne suis pas du tout pour cette loi organique qui en fait fait souffrir nos finances publiques. Aujourd'hui, on a besoin d'argent, on traverse une crise multidimensionnelle. Nous avons pratiquement un budget de guerre aujourd'hui. Quoi qu'il faut soutenir cet effort de guerre-là et non payer des indemnités comme ça pour des millions à des nommés, pas des élus.
D'accord, à des nommés, pas des élus, c'est sa lecture. Monsieur Abdallah, monsieur docteur Abdou Touré, je vois que vous souriez au propos de votre cher ami, de votre vis-à-vis,
Abdallah Yattara. Tout à fait. Bon, Abdallah, il a ses propres arguments, mais j'ai une lecture nuancée parce que nous avons vu à un moment donné la question de la cherté de la vie, notamment au niveau des institutions qui étaient posées. Des efforts ont été fournis, mais les Maliens, l'histoire de l'EMDA demande plus. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'AS, souvent les petites comparaisons, les analyses à gauche, à droite, prouvent à suffisance que le peuple attend encore d'autres efforts au niveau du CNT. Okay. Maintenant, la grande question qui se pose, la rétroactivité de la loi jusqu'en 2020, peut-être ceux qui étaient là-bas ont été pris de court par le temps, parce que s'ils avaient eu le temps, ils allaient un peu se protéger. Donc c'est pour que le CNT s'est protégé, par exemple, par cette loi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une justice ou bien une politique de deux pas? Je dirais non, parce que la justice va faire son travail pour essayer de prendre en compte ces nouvelles données. Donc c'est pour dire que n'entrons pas dans des polémiques, mais certes, ils ont été pris par le coup, parce qu'il y a eu, la chute du régime. Ceux-ci ont pris connaissance de ce dossier, ont pris les enseignements nécessaires pour ne pas être rattrapés un jour par la loi. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que nous attendons toujours qu'au niveau du CNT, que des efforts soient fournis. Au niveau aussi de ceux qui sont en prison, nous attendons que la justice ou bien le tribunal certainement va trancher pour nous donner d'autres informations.
Très bien. Oui, Bado Sidi Koba, alors le timing, hein, on se pose la question, on parlait tantôt de l'économie du pays, qui est une économie quand même qui est beaucoup fragilisée. Certains se posent la question, est-ce que c'était vraiment le moment? Il est vrai, une loi est une loi, quand elle est promulguée, il faut aller à l'application de cette loi, alors plus de voies de recours. Alors, est-ce que c'était le moment, le bon moment, selon vous?
Oui, le CNT n'avait pas le choix, parce que il fallait créer une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est quoi? C'est la loi organique. Parce que la loi organique est précise ou complète la Constitution. Contrairement à la loi ordinaire. Parce que la loi ordinaire, c'est une loi qui peut être votée par le Parlement et appliquée. C'est cette erreur qu'a eu Bavier, qu'a eu Isaac, qu'a eu Djarassouba, le premier Kester. Donc, par rapport à la loi organique, c'était une nécessité parce que les membres du CNT, les dirigeants du CNT, savent bien que demain va arriver. Donc, il fallait se mettre à l'abri. C'est pourquoi la loi a passé par le CNT, la Cour constitutionnelle, et le président de la transition, chef de l'État, a promulgué cette loi. Et j'aurais appris à travers des documents, et d'ailleurs j'ai vu ça à la télévision, on a supprimé 400 000 francs CFA par rapport au Conseil national ordinaire et 550 000 francs par rapport aux conseillers qui font office de secrétaire parlementaire, etc., etc. C'est une très bonne chose. Sauf que le peuple malien est aujourd'hui un peuple victimaire, parce que le peuple malien est accablé par des taxes et autres là, surtout au niveau des opérations de téléphonie, etc., etc. Donc la mesure tombe à pic, c'est une vérité. Mais est-ce que c'est suffisant? Nous pensons qu'au niveau d'autres secteurs aussi, il va falloir faire en sorte que les trains de vie de l'État soient réduit à minima. Okay. Parce que le pays est en crise, le pays est en difficulté. Nous sommes en guerre depuis 2012. Or, la guerre consomme beaucoup d'argent. D'accord. Et il faut beaucoup d'argent pour supporter l'effort de guerre. Donc, moi, je pense que au nom du patriotisme qu'on cite chaque fois, vraiment, il risque de voir dans d'autres secteurs comment procéder à des réductions. Soumano a rappelé un élément très important. C'est vrai que les conseils nationaux sont tenus de payer des taxes et autres là sur les indemnités qu'ils perçoivent. C'est une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il y a des efforts à fournir, même si des efforts ont été faits.
D'accord, des efforts à fournir, même si des efforts ont été faits. Soumano, la loi elle est promulguée. Aujourd'hui, est-ce que les membres du CNT peuvent, de façon unanime à leur sein au sein de cette institution, décider aussi de se rallier, de faire comme les États de l'AES, parce que nous faisons partie quand même d'une confédération, comme l'a rappelé tantôt M. Abdallah Yattara. Est-ce qu'ils peuvent décider, bien que la loi soit promulguée, en tout cas de renoncer à certaines choses aujourd'hui pour en tout cas le bonheur du peuple malien?
Oui, Oumar, vous savez, il faut que les gens comprennent une chose. Moi, j'ai toujours soutenu l'idée selon laquelle tout travail mérite rémunération. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du travail. Je sais que quand vous travaillez, vous devez être rémunéré. Moi, je tiens à ce principe sacro-saint qui gouverne le contrat social dans un pays. Maintenant, une loi est là, il y a des droits. Il y a des manières de renoncer à un droit. C'est volontaire. On ne peut imposer à personne de renoncer. Aujourd'hui, votre droit de vote, vous avez un droit de vote. Vous avez le droit d'exercer ce droit de vote comme vous avez le droit de ne pas exercer ce droit de vote. Cela vous appartient. Donc la question que vous posez, de mon point de vue, il appartient, de mon point de vue, à chacun des membres du CNT de prendre cette décision. Maintenant, s'ils prennent cette décision-là, le problème, est-ce qu'il faudrait faire de telle sorte que tout le monde prenne cette décision-là? Moi, je ne pourrais répondre à ça. Mais en tout cas, les voies et moyens sont connus pour y renoncer. Par exemple, on a vu par le passé des personnalités qui ont dit qu'elles ne voudraient pas de leur avantage. Et la loi, à l'époque, il n'y avait pas la forme qui avait été mise. Parce que ce que la loi dit en matière de renonciation à un avantage, il faut faire un écrit. Pourquoi? Parce que la loi existe. Donc, pendant que la loi existe, on est tenu de vous verser. Mais dès l'instant que vous faites une renonciation de façon expresse, ça tient l'administration. Et de ce point de vue-là, vous ne pouvez plus revenir vous dédire, parce que moi je l'ai fait pour un moment, maintenant ce moment est passé, je vais y revenir. Non, si vous renoncez, vous renoncez pour de bon. Donc voilà, c'est pour cela qu'il est difficile sur ce plateau-là de parler au nom de ceux qui sont dans cette situation-là.
Et c'est des propositions, des sujets,
oui,
des choses.
Maintenant moi je me dis quelquefois, il ne faut pas. Pour moi, ben, si on compare. Les gens souvent le disent, oui, par exemple, Abdallah disait, on ne connaît pas le montant. Pour moi, le montant importe peu. Le montant importe peu. Est-ce que, déjà, si c'était des montants surestimés, on aurait eu déjà, j'allais dire, une censure. C'est passé par là, déjà. Donc, si vous voyez que la Cour constitutionnelle a dit que les indemnités sont conformes à l'esprit de la Constitution, pour moi, le débat est clos. Maintenant, il appartient à chacun des membres du CNT de voir, moi, voilà ce que je peux faire. Mais personne ne peut leur imposer. Et il ne faut pas que cette imposition puisse être de mise. Moi, je suis contre cela.
D'accord.
Maintenant, je voudrais aussi rappeler une chose. L'État a mené beaucoup d'actions pour réduire le train de vie de l'État. Moi, je reviens d'une mission où j'ai vu la tête de la délégation. Par le passé, ce n'était pas ça. Le Premier ministre a voyagé, pour votre information, si peut-être c'était sous d'autres régimes, c'était des conseillers à n'en pas finir. Mais il a ramené le seuil minimum. Ce n'était pas tous les ministres qui étaient là-bas. Donc, généralement, on sert sous d'autres cieux ou sous d'autres régimes. Quand le Premier ministre voyageait, c'était au minimum une dizaine de ministres qui l'accompagnaient. Mais il a amené le seuil minimum. Donc, ça, il ne faut pas oublier cela. Et donc, pour le résumer, moi, j'estime que le débat, il est clos. Peut-être, certains, pour des actes politiques, auraient voulu que, ben voilà, ils renoncent. Mais moi, j'estime que tout travail mérite rémunération et les voix les plus autorisées ont indiqué que cela est en phase avec la Constitution.
Très bien. Oui, tout à l'heure, quand Badou s'exprimait, je voyais que vous aviez des réactions par rapport aux membres du CNT, je ne sais pas trop, par rapport à des chiffres qu'il avait évoqués, monsieur.
Je suis sur le principe que tout travail mérite rémunération, et ça c'est clair, vous comprenez. Mais moi, le principe c'est quoi? On devait tenir compte des finances publiques. Il faut faire un peu du sur les choses. Vous savez, sous Moussa Traoré, qu'on qualifiait de dictateur, les fonds de souveraineté, c'était 300 millions par an. Par an, je dis bien, 300 millions par an. Et là, aujourd'hui, on est à 150 millions par mois pour le président de la transition. Et on a 35 millions pour le président de la l'UCNT et à 25 millions pour le Premier ministre. Mais sous Moussa Traoré, qu'on qualifiait de dictateur, c'était 300 millions par an. Et sous la législature de Alpha, la première législature de Alpha, le député était payé à 125 000 francs CFA. J'ai dit bien, 125 000 francs CFA par mois. Vous comprenez? Vous voyez l'écart aujourd'hui. Et on dit que la démocratie n'a pas travaillé. Mais on salue chaque fois la résilience de la population. Oui, il faut saluer la résilience de la population. Mais encore faudrait-il qu'on applique cette résilience au plus haut sommet aussi, pour au moins sauver nos finances publiques. C'est de ça qu'il s'agit.
D'accord. Alors, justement, il faut saluer la résilience du peuple. Alors, cette loi qui a été adoptée aujourd'hui, vous parlez tantôt, est-ce que, c'est la même question que j'ai posée à M. Soumano, la décision finale revient évidemment aux membres du CNT. Il peut prendre peut-être à l'interne une décision pour renoncer aussi à certains avantages. Est-ce que cette thèse est plausible?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont renoncé à trois indemnités de monture, de restitution et de chauffeur. Vous comprenez? Mais on aurait dû publier l'annexe qui nous fixe le montant.
Pour des besoins de transparence?
Exactement, pour des besoins de transparence. Okay. Moi, chaque fois qu'un journal officiel est publié, c'est publié avec ses annexes. Mais cette fois-ci, le journal officiel a été publié avec la loi organique, mais les annexes, on ne les a pas publiées.
D'accord.
Ça montre quelque chose quand même. Ça tique un peu. Okay. Moi, j'ai dit, il faut tenir compte de l'état des finances publiques aujourd'hui.
Okay.
On n'a pas besoin de se donner tous ces avantages-là.
D'accord.
Tous ces membres du CNT-là, c'est soit de la profession libérale, soit qu'ils travaillent pour eux-mêmes, soit qu'ils sont des fonctionnaires. Vous comprenez? Parce qu'il y a des fonctionnaires militaires là-dedans. Moi, je crois qu'on aurait dû, quand même, ceux qui sont des fonctionnaires militaires, ceux qui sont des fonctionnaires civils, peut-être alléguer les fonctionnaires, on aurait dû volontairement renoncer. Pour la patrie, ils auraient dû renoncer à ça.
Oui, par patriotisme, est-ce qu'ils peuvent renoncer Malick Diaw, le général d'armée, voilà, le général de corps d'armée, je rappelle Malick Diaw et tous les membres du CNT, selon vous, par patriotisme?
Bon, papa, tout est possible, même le sacrifice ultime, mais la question qu'on se pose, est-ce qu'au-delà de ce qui a été fait, est-ce que le CNT va faire autre chose? Donc, cela veut dire que de 12 points à 5 points, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Mais moi, j'estime et je reste convaincu que le CNT pourrait surprendre de nouveau.
D'accord.
Voilà, dans les jours à venir. Donc, c'est vraiment. C'est ce que le Malien attend, parce que le Malien attend que tout le monde compatisse. À la vie chère, des actions, des efforts seront tous les bienvenus.
D'accord.
Mais à la question, est-ce qu'ils vont le faire? Là, ça va être très difficile. C'est parce qu'ils ont déjà. C'est des points de 12 points à 5 points, on attend. Voilà, c'est pas facile.
Ils ont déjà fait des efforts. Ils ont déjà fait des efforts. Oui, rapidement.
Je voudrais rappeler une chose. Oussa Abdallah, vous savez, au Mali, en général, quand vous êtes étudiant, vous êtes le plus heureux parce que vous n'avez pas de charge. Imaginez quand vous avez une rémunération, vous avez un revenu. N'oubliez pas qu'il y a des charges qui sont liées au revenu. Généralement, les gens vont prendre des prêts. Et les prêts sont en fonction de quotité et remboursable. Donc, même si, quelque part, moi, M. Soumano, aujourd'hui, imaginez que je vois que mes revenus sont de X francs, je vais me contracter pour peut-être envoyer mon enfant étudier ou payer les études de mon enfant au Mali. Mais je dois payer des quotités au niveau de la banque. Donc, il faut intégrer qu'il y a souvent cet aspect que les gens ne prennent pas compte.
Et c'est l'État qui doit prendre en charge
ces frais-là? Non, pas l'État. Je dis sur mon revenu à moi. Je dis mes revenus. Okay. Moi, quand j'occupe un poste, j'ai un revenu. Okay. Donc, je m'arrange à consommer mes revenus. Et souvent, je peux être amené à prendre un crédit. Et je paye le crédit en fonction de ma quotité cessible. Et la quotité cessible est en fonction de revenus. Alors, imaginez, est-ce que dans cette situation-là, si moi, je venais à renoncer à une partie de ces revenus-là, qui pourtant ont été quelque part gagés, pour pouvoir me permettre de financer un certain nombre de choses dans la légalité. Mais est-ce que si je ne renonçais pas de façon volontaire, est-ce à dire que je ne suis pas patriote? Il ne faut pas juger, s'asseoir, penser qu'il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention.
C'est les sélections, monsieur.
Voilà, l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit laisser les gens, les uns et les autres, en toute conscience, en toute responsabilité, et ne demandez pas à ce qu'il y ait une décision collective à ce niveau-là.
D'accord.
Vous laissez à chacun, il appartient à chacun de pouvoir prendre les décisions.
Juste pour finir, la quotité cessible, c'est le chiffre du salaire. Comprenez, c'est ce qu'on appelle, quand tu prends un prêt à la banque, on dit on peut pas, quand tu es salarié, on ne peut pas dépasser la quotité. Ça, c'est le tiers du salaire. Comprenez, mais les charges, certaines charges, on ne doit pas les griffer.
Ça dépasse.
Voilà, on ne dépasse pas, mon frère. Je t'ai dit, Mon frère, je t'ai dit, c'est à côté, c'est le chef du salaire.
C'est pas vrai.
Je t'en prie, mon frère.
J'ai eu à la
banque des 18 crédits. Mon frère, j'ai pas eu le travail à la banque, mais j'ai fait 18 mon service crédit.
Tu as mal appelé.
Vous comprenez? Non, je vous en prie. J'ai fait, j'ai monté plusieurs dossiers de prêts. Que ce soit de particuliers, de fonctionnaires, que ce soit même de commerçants. J'ai monté plusieurs dossiers. Tu ne vas pas montrer à la côté, c'est simple. Je vous en prie, ne rentre pas dans ça. Vous comprenez? Tu ne vas pas montrer à côté, c'est simple. Donc, on ne doit pas greffer certaines charges à ces revenus-là. Des revenus qui sont sûrs, quand on est fonctionnaire militaire, quand on est fonctionnaire civil, ça c'est les revenus sûrs, on doit greffer certaines charges à ces revenus-là. Mais pas à ces revenus qui sont aléatoires, parce qu'on est nommé, on n'est pas élu.
D'accord, alors, on n'est pas élu. Non, tous les prestataires, il sait qu'il a dit, ce n'est pas exact. Quand vous vous engagez pour un prêt immobilier, vous pouvez aller jusqu'aux trois quarts de votre salaire. Et souvent même, il y a une session volontaire donnée par le juge. Donc, ce que vous racontez, elle vient de voir sa copie, ce n'est pas exact.
Non, non, non. Okay. Moi, j'ai dit,
il y a des experts qui
nous suivent. Devant la dérogation, sur le principe de la banque, on ne peut pas dérogation à côté.
Il y a des experts qui nous suivent.
Tu peux demander une dérogation
à côté. Il y a des jugements par rapport à ça. On va là rapidement au troisième sujet de ce débat. Nous parlons tantôt du mode, le nouveau mode opératoire des terroristes. Justement, c'est des installations, malheureusement, qui sont attaquées. Des usines, nous avons vu le 1er juillet dernier, c'était à Kaï, l'usine Stone qui a été justement attaquée. Et c'était également Nsoukala de Dougabou qui a été attaquée. Et tout récemment, c'est Nsoukala de Bewani qui a aussi été attaquée. Est-ce une stratégie pour, en tout cas, affaiblir notre économie? C'est ce qu'on essaie de comprendre dans ce sujet réalisé par Sorona Diakité.
Une semaine seulement après l'attaque contre l'usine Soukala SA de Dougabougou, des individus non identifiés ont incendié la deuxième sucrerie Nsoukala de Bewani dans la région de Ségou. Selon des témoignages, l'incident s'est produit aux environs de 1h du matin ce jeudi 7 août. Même si l'attaque n'a pas fait de victimes, les dégâts matériels sont considérables.
Bon, mobile le mouille est gêné, en tout cas, on a mouille est bimou, en tout cas, la barrière est au tac, la barrière est là, à dire, mobile dit ça va fonner, à dire, on est gêné, en tout cas, la barrière est au tabang, en tout cas, la barrière est au chaman, il est au banina, ou elle est en administration, c'est refait, ou qu'on est au gêné.
Avec une production annuelle de plus de 5000 tonnes de sucre, et 9 600 000 litres d'alcool, Nsoukala exploite une superficie de 20 000 hectares de canne à sucre. Cette attaque a donc de lourdes conséquences pour les agriculteurs.
Nsoukala est vraiment baragala mounyere wa kono ya. Tego région era konana akacha ma badi dari medicine dala. Alors nous pourrons nous sene ni Nsoukala est à baratira ke. Mais a koni ami rom ne na posa gela le do era ga material do ge ni masaga jini. Kilingele ni munu be am kulure ta am ka kana e markala. Izini kon dat gule no wati na folo. Ko vraiment avec gela bayama changa fin peri sile do ni tenkele na.
Cette série d'attaques constitue une nouvelle stratégie des groupes terroristes pour affaiblir l'économie nationale. Le 1er juillet dernier, lors d'une attaque coordonnée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, des sites industriels, notamment l'usine Stone de l'entrepreneur Ibrahim Diawara, ont été incendiés dans la région des Kaï et des ressortissants étrangers enlevés.
Voilà, c'était là la voix de Sokona Diakité et la réalisation, c'était de Makan Fofana. Merci alors pour ce travail. Alors, Badou Sidi Kouba, oui, est-ce qu'on peut dire qu'en s'attaquant à nos usines, c'est une nouvelle stratégie pour les terroristes d'affaiblir l'économie nationale?
Vous savez que nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. On a encore l'impression que les terroristes savent où et quand il faut exactement attaquer. Avant, ils s'en prenaient aux casernes militaires, aux cibles militaires. Ça sent bien la puissance d'effet de nos forces armées, ça je l'assume. Donc ils ont décidé de changer de mode opératoire, de système d'agression en s'attaquant aux infrastructures économiques. Ça c'est le point névralgique de toute nation. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le cercle de Bafoulavé, vous êtes de la zone avec l'usine Diawara Stone. Nous avons vu les images de Seribala, de Dougabougou et de Bewani. Donc ça veut dire tout simplement que les terroristes envisagent désormais d'asphyxier nos populations afin de les révolter contre le pouvoir central. Dans la zone office de Niger, quotidiennement, ils se mettent à violer des récoltes. C'est pourquoi je doute même de leur bonne foi, parce qu'un musulman ne s'attaque pas à des cibles appartenant à des musulmans. Donc ça, c'est une autre situation. Un musulman n'entretient pas la famine dans sa communauté. Un musulman doit œuvrer au bien-être des autres musulmans. Mais un musulman ne s'attaque pas à la nourriture d'un autre musulman. C'est très important de le souligner, mais c'est le lieu de lancer un cri de guerre à l'endroit de nos autorités civiles et militaires. Qu'elles prennent toutes les dispositions pour protéger les sites sensibles. C'est vrai que le Mali est un vaste territoire et qui est difficile à couvrir, vu les effectifs de nos forces armées. Je me rappelle bien quand Dayourou Dembélé était ministre de la Défense des Anciens Combattants, il a dit que 60% des effectifs sont engagés dans des opérations de combat contre les terroristes. Vous voyez que c'est déjà très important. Donc, il y a des efforts à faire. C'est le lieu aussi de lancer un appel à nos braves populations, d'assister nos forces armées en termes de renseignements. Parce que la guerre asymétrique sur les renseignements, c'est l'information à temps réel. Quand vous voyez un mouvement suspect, il faut alerter le poste de gendarmerie et le plus proche. Donc, ça permettra vraiment de réduire les effets des dommages collatéraux de ces bandits-là. Okay. Et pour terminer, encore une fois, vraiment, chapeau bas à nos forces armées. Chapeau bas, c'est un terme journalistique qui veut dire courage à nos forces armées. C'est pas un signe d'insulte. C'est pour tout simplement réconforter davantage nos forces armées. Chapeau bas à nos forces armées. Okay. Vraiment, qu'ils font un travail remarquable et au quotidien.
Et elles en ont vraiment besoin. Oui, docteur Amadou Touré, rapidement. C'est des images qui sont quand même insoutenables. Des usines qui sont attaquées, des vivres qui sont incendiées. Quel est le rapport avec la guerre?
Bon, c'est une nouvelle phase de notre guerre asymétrique. Parce que la première impression, c'est les groupes armés qui attaquent nos infrastructures chercheraient à asphyxier l'économie, à occasionner un arrêt brutal du développement du Mali. C'est-à-dire en contestant l'autorité de l'État. Quand j'ai dit contester l'autorité de l'État, ça veut dire quoi? Ils savent bien que les femmes sont engagées sur d'autres terrains. Donc un premier point sécuritaire, c'est pour désengager les troupes. Allez-y sécuriser les sites, or que tout le monde sait qu'il faudrait plus de matériel pour sécuriser tout. Donc il y a une tentative de désorganiser le dispositif sécuritaire du Mali qui est en cours avec Dougou Koloko qui a été lancé récemment avec le président, avec les têtes d'opération. Troisième lecture, c'est pour dire que ces groupes armés ne seraient pas dans une dynamique pour pousser l'État à négocier. Pousser l'État à négocier parce que si on ferme les usines, malheureusement le chômage, la tension, donc il y a plus un point, le point social et le point économique qui vont avoir des inflations sur les populations, lambda qui ne peut pas patienter. Je donne un exemple, l'usine de sucre a été brûlée, est-ce que dans une semaine ou deux, le sucre va augmenter? Déjà c'est à un prix, est-ce que ça ne va pas doubler? Donc c'est dire qu'ils vont pousser certainement les autorités à prendre en compte leur présence pour dire qu'ils sont là en tant qu'acteurs, qui ne sont plus dans une guerre asymétrique pour combattre les formes, mais ils sont dans une nouvelle phase où arrêter carrément le développement du Mali en s'attaquant à tous ceux qui peuvent aider. Il ne s'agit pas des usines, les infrastructures, les routes, les produits agricoles. Je donne l'exemple, là-bas de Tombouctou toujours. Notre route Gomokoro-Lora a été brûlée parce que les sentiers. Donc, tous ceux qui font que l'État avance ou qui apporte un plus à la population seront attaqués dans les jeux. Donc, il faut plus de vigilance, quitte même à voir qui font ce type. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent négocier, ça a été dit. Ils veulent faire de la politique, ils veulent avoir un territoire, ils veulent s'imposer dans le coup. Donc c'est pour dire qu'il y a ces facteurs qui seront désormais en jeu. Faut-il négocier avec ceux qui brûlent les usines? Parce que ce n'est plus une guerre classique, terroriste, asymétrique classique. Donc c'est vraiment, c'est déjà jamais vu. D'accord. Donc deux ou trois personnes peuvent se lever, aller ça. Donc c'est pour dire que forcément, ceux-ci vont taper sur la cohésion sociale pour pousser les uns et les autres à se maintenir.
Oui, c'est l'objectif visé certainement, M. Soumano, c'est pour asphyxier l'économie malienne, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre idée derrière cette situation qui consiste justement à faire révolter, en tout cas, la population contre l'autorité établie? Parce que c'est cette lecture que beaucoup de gens aussi font. Hein.
Alors, déjà, moi, je tire deux enseignements. Le premier enseignement, c'est pour dire que la puissance de feu de nos braves femmes, c'est indéniable, ça veut dire qu'ils ont pris le dessus sur les rebelles, les groupes djihadistes, parce qu'aujourd'hui, s'ils ont changé de stratégie, ça veut dire que l'affrontement, c'est
les terroristes,
les femmes ont pris le dessus. Ça, c'est le premier enseignement, et ça, c'est vraiment, il faut dire chapeau à nos autorités. Maintenant, le second enseignement qu'il faut tirer, c'est que c'est fait à dessein pour ternir l'image de notre pays. C'est fait à dessein. C'est pour cela qu'il faut beaucoup communiquer. Et moi, je vous dis une chose. Dans le cadre de ce travail, de pouvoir éviter de montrer aux gens qu'il y a de la désinformation et qu'on fait peur aux gens pour venir au Mali, on a un ancien concept qui s'appelle « Oser le Mali » et qui va se faire en septembre. Alors, imaginez, quand cela a eu lieu, on se prépare par exemple aux États-Unis au mois de septembre pour attirer les investisseurs américains à venir investir au Mali. Il y a un qui m'appelle, il dit, mais Monsieur Soumano, mais comment vous pouvez maintenant nous demander de venir alors qu'il y a ça? Je lui ai dit, mais écoutez, faites attention, il n'y a aucun pays au monde où la sécurisation physique des investissements n'est assuré nulle part au monde. Je dis, ça n'existe nulle part. Vous avez la sécurisation juridique des investissements, mais jamais de sécurisation physique. Et je dis, mais pour autant, est-ce qu'il va falloir arrêter de former les médecins parce qu'on n'empêchera pas la mort? Je dis, répondez à cette question. Il dit, oui, il dit, là, cette réponse est. Je dis, dans ce cas, vous ne pouvez pas refuser de venir parce qu'il y a cela. Maintenant, ce que je voudrais dire, il faudrait à un moment donné qu'on sache que même ça, M. Diawara au Japon, je lui ai serré la main, je l'ai félicité. Parce que, imaginez, malgré qu'il a perdu 30 milliards, il a décidé de maintenir à l'état tous les employés afférents. Aucune personne n'a été mise en chômage technique. Alors que, vous voyez sur les réseaux, il y a certaines usines qui ne sont même pas brûlées, qui ont décidé pour des questions X ou Y, des raisons X ou Y, ont décidé de mettre les gens en chômage technique.
D'accord.
Mais il y a encore des Maliens qui ont souci de soutenir l'économie, le cas de ces...
Très bien. Oui, Abdoulaye, très rapidement, hein, nous sommes sérieusement pris par le temps. Vous êtes de la zone de Maracala et cette situation, notamment Nsokala, Dougabougou et puis Bewani, incendiée, ça vous... Je pense que vous avez quand même... Ça vous touche profondément, mais au-delà de cela, quelle peut être l'idée qui se cache derrière, en tout cas, cette nouvelle phase que nous avions maintenant amorcé avec ces terroristes?
Non, effectivement, c'est ce qu'on appelle toucher là où ça fait mal. Comprenez? Et ça montre l'impuissance en réalité des terroristes, des djihadistes face à la puissance de feu de nos forces armées de sécurité. Je crois qu'ils ont dû changer de stratégie. Et à mon avis, ça a comme seul objectif non seulement de dissuader les investisseurs à venir investir au Mali, mais aussi ceux aussi qui sont là à fermer aussi porte. Comprenez? Donc ça touche effectivement la localité de Nyono, Markala, où l'économie locale en réalité ne vit en réalité que de ces deux sécurités-là. Vous comprenez? Donc pratiquement c'est toute l'économie de la localité qui va être mise à genoux. Et pour nos finances publiques aussi, ça a un coût, parce que nous avons pratiquement un budget de recettes fiscales. Et s'il va falloir que Soukala et les Bewani et les trois unités industrielles de Diawara et la Cimaté ne payent plus des impôts, des taxes au budget d'État, ça veut dire que c'est un coût aussi pour le budget d'État, pour nos finances publiques. Moi, je crois qu'il va falloir trouver une solution à ça rapidement. On ne peut pas aussi, comme l'a dit Soumane, on ne peut pas sécuriser les unités industrielles au risque de vider les camps militaires aussi et les laisser aux mains de ces terroristes et des djihadistes. Je crois qu'il va falloir qu'ensemble nous réfléchissions. D'accord. Et que la population s'investisse aussi. D'accord. Pour donner les renseignements. Parce que les renseignements d'ordre humain sont très importants. Ils sont très importants. Il va falloir que la population contribue, mette les informations nécessaires à la disposition de nos forces armées de sécurité pour qu'on puisse vraiment lutter contre ces terroristes et djihadistes.
Très bien, donc nous devons...
Moi, je voulais ajouter une seconde seulement.
Oui.
Bon, certains voient déjà la main noire des Chinois parce qu'on est en train de demander aux Chinois de vider le plancher par rapport à l'exploitation aurifère. Mais de toute façon, les troupes gouvernementales veillent au grain et nous, on a l'esprit tranquille.
C'est le plus important. Nous osons croire qu'ils auront trouvé la bonne formule, en tout cas, pour endiguer ce nouveau fléau qui, en tout cas, essaie de fragiliser carrément l'économie de notre pays. Merci à vous de nous avoir suivis avant de quitter ce numéro de votre émission Le QG de l'Actu. Nous avons une pensée pieuse à notre confrère, El-Béchir Cham, qui est quand même qui a été enlevé il y a quand même 3 mois de cela. Nous prions Dieu pour qu'il retourne au sein et sauf dans sa famille. Nous avons même vu à un moment donné, en tout cas, cette annonce de sa femme, hein, un cri de cœur et un père de famille enlevé, c'est quand même triste, c'est triste. Donc nous devons croire que M. Béchir Cham va retrouver sa famille très bientôt. Merci à vous. Donc, de nous avoir suivi. Oui, justement, qui nous a même rendu visite dans les locaux de Djoliba il y a quand même quelques semaines de cela. En tout cas, paix à son âme. Ainsi va la vie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Cheikh Omar Soumano. Merci à vous, M. Soumano. Docteur Amadou Touré, merci docteur. Bad Abdallah Yattara, merci Abdallah Yattara et Bado Sidikouba. Gros, grand clin d'œil à la grosse équipe de réaction dirigée par Augustin Echubéi, Moussa Haïdra, Lamine Koulibaly, Youssouf Sangaré, Mourlaï Touré. A très vite sur Djoliba TV News. Au revoir.